史。
Il y a ce qu'il y a dehors, nos vêtements, notre visage, notre apparence, notre prénom, notre façon de parler, et puis il y a ce qu'il y a dedans, notre cœur, des voix parfois, des peurs, des addictions, des convictions et l'âme, si ça se trouve. Dans votre dernier spectacle, Roman Frayssinet, vous parlez des deux, mais le titre nous renseigne sur ce qui semble vous intéresser le plus, le dedans. Un dedans pointé vers le haut grâce à un super accent circonflexe, haut dedans donc. Tout cela pourrait paraître spirituel, assez profond, et ça l'est. Et c'est aussi drôle, émouvant, de bout en bout, dans une énergie très tenue. Un spectacle qu'on sait super écrit, je peux le dire, je l'ai vu deux fois, mais qui donne un sentiment particulièrement enviable de relâchement. Au dedans, c'est le titre de votre spectacle. C'est la grande tournée pour vous.
Oui.
Ce sera à l'Olympia à la fin de l'année. Il reste quelques places pour l'Olympia ?
Très peu, je crois.
23-26 novembre et 12 au 14 décembre.
Je me tiens pas informé.
On peut grappiller les dernières places pour l'Olympia.
Ben, j'ai peur que ce soit complet, mais il faut chercher.
Il sera pontin.
Il faut se débrouiller.
La moquette.
Voilà, il y a
le couloir.
Ou alors un contact à l'intérieur qui te fait rentrer par une porte de derrière. Il faut trouver.
C'est bonsoir, les dernières dates parisiennes.
Bah, bonsoir, bonsoir.
Soyez le bienvenu, on est ravis de vous recevoir ici pour parler de haut dedans. Je dis qu'il y a un sentiment comme ça, très enviable, très désirable, parce que c'est désirable le relâchement dont on sort, même si pour l'avoir vu deux fois, je sais que c'est une partition très stricte, manifestement. Peut-être on peut parler de votre corps, ce fameux véhicule dont il est beaucoup question. Quand vous montez sur scène, vous êtes appuyé sur le pied de micro, comme à une canne.
Exactement.
À quoi ça vous sert ?
Il y a la raison très pragmatique. Je pense qu'il y a une forme de nonchalance.
Réelle, pas jouée.
Ouais, qui est très réelle. C'est pas mis en scène. C'est vraiment... J'ai commencé la scène, il y avait toujours un pied de micro. Et je suis de nature un peu fatigué. Et donc, c'est comme ça que je me sens à l'aise. Et c'est devenu un peu un instrument pour moi... je pense aussi que au départ, ça me servait à cacher peut-être du stress, parce que ça se voit dans le corps le stress, ça se voit dans tes bras, etc. Et je voulais me poser aussi, des fois pour installer des propos, c'est intéressant d'être posé. Et ce pied de micro, c'est un peu mon comptoir de café, c'est un peu ma table haute. Je me sens à l'aise dessus, mais c'est pas réfléchi en fait. C'est vraiment quelque chose qui s'est installé très naturellement avec les années. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer.
Donc, il y a un pied de micro que vous avez presque sous le bras, quoi, dans les selles. En effet, ça pourrait être une sorte de tabouret, un arbre, quelque chose sur lequel vous êtes reposé. Et puis, il y a un micro. Et les premiers moments sont un moment, pour le coup, là, vraiment improvisé, de mise en place, qui dure, j'imagine, plus ou moins longtemps en fonction des soirs.
Des fois, il n'y en a pas.
Des fois, il n'y en a pas.
Des fois, ça dure 20 minutes. Ça dépend. En fait, je veux que ce soit vraiment de l'impro, si ça en est. Donc, je ne veux pas l'imposer. Si j'essaie de construire avec l'instant. Et des fois, en quelques brefs échanges, on comprend que ce soir, on va pas construire avec eux. Alors, on rentre.
Il faut lancer la machine.
Subtilement dans le spectacle. Et des fois, on rentre dans des conversations interminables.
Et alors ça, comment ça se passe ce moment où vous devez faire avec ce qui est là ? Alors vous devez toujours faire avec ce qui est là, mais dans un premier temps, il n'y a que ce qui est là. Il y a vous, les visages, comment on est habillé, qui on est ce soir-là, le mood de la salle. Comment ça se passe ?
C'est avant tout une acceptation de l'instant. Il y a une forme de relâchement et tout peut devenir une source d'inspiration. Je raconte ma journée, je parle avec quelqu'un. Je me renseigne s'ils vont bien, vraiment, sincèrement. Pas juste avec la forme, vous allez bien, non, vraiment. Surtout que les premiers rangs, je les vois. Et y a des gens, on voit que ça va pas. Et je crois que c'est des moments où c'est important d'aller leur parler et de dire ça va pas, vous avez le droit de... Qu'est-ce qu'il y a ? Allez-y, on peut en parler, on est tous là. Et surtout d'avoir une forme d'improvisation positive, en fait. Que la blague, ce soit pas, je vais pas te rabaisser devant les autres et grappiller quelques rires, c'est pas ça. Tout le plan, c'est de construire avec toi. Que tu sors de là, que ça t'ait fait du bien. Et ça m'a fait vraiment plaisir, il y a de ça quelques semaines, une dame au premier rang, et pareil, je vois que ça, elle a besoin de parler, en fait. Donc, je parle avec elle.
Devant tout le monde, il faut bien que vous soyez d'accord, ceux qui nous écoutent, que, en tout cas par exemple pour toutes les dates parisiennes, c'était dans un petit club au Sacré, la salle elle est basse de plafond, il fait noir, on est rentré. Moi j'ai pas l'habitude de ce genre de lieu, c'est plus boîte de nuit, bar.
Ouais, c'est ce qu'on voulait.
Ça
ouais.
colle.
Voilà, exactement.
C'est ce que vous vouliez. Et donc il faut se dire que quand vous parlez au premier rang, on est tous là.
Oui, oui, et puis l'idée de ça c'est aussi installer le fait que il n'y a pas de quatrième mur, c'est une vraie conversation. On est vraiment en train de se parler. Cette petite salle, elle était là pour installer cette vraie authenticité. Quand il y a un trop gros décorum, un théâtre, ça installe une distance entre le public et ce qui se passe sur la scène. Et ce que je voulais, c'est que les gens prennent la pleine conscience que, en vrai, il y a un micro, un pied de micro, parce que l'artiste est paresseux, une lumière, et on est vraiment en train de parler, d'échanger. À n'importe quel moment, ils peuvent parler. Et moi, à n'importe quel moment, si je ressens qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, je vais leur parler. Et je trouve que ça amène quelque chose de différent. Ils peuvent être eux-mêmes, comme moi, je serai profondément moi-même.
Et ça, c'est autre chose que jouer ce qu'on a écrit.
Oui. Parce que, il y a cette science de l'instant. Il y a quelque chose de... Même quand on joue quelque chose qu'on a écrit, il y a une place de l'instant, toujours. Le secret, ça reste toujours une forme de vérité. Mais là,
elle est brute, quoi.
Ouais, elle est brute. Et puis, il y a une adrénaline différente. Et puis on peut être amené à des situations où on devient public. Moi, ça m'arrive d'avoir des échanges avec des gens où je deviens public, quoi.
Oui, il y a un soir, moi, un des soirs où je suis venue, il y a une femme qui est montée, qui a finalement chanté.
Ouais, c'était marrant, ça. C'était marrant. Et je reviens à ça. Et une dame qui m'a écrit il y a quelques jours, qui m'a dit, vous m'avez parlé à mon spectacle, vous m'avez demandé si j'allais bien, vous avez pris le temps d'échanger avec moi, et elle m'a dit, ça m'a fait chaud au cœur parce que je passe ma vie en étant invisible. Ça m'a touché, quoi. Et je sens que cette dame, ça lui a peut-être mis, au-delà des blagues qu'on a dans le spectacle, peut-être que ça lui a donné un peu de, je sais pas, un peu de baume au cœur, un sourire, quelque chose qui reste avec elle quelques jours, quelques semaines peut-être.
Il y avait du rire quand même avec cette dame dans cet échange.
Toujours la volonté de transformer même ce qui est. Je pense que la comédie à la base c'est vraiment c'est de l'alchimie. On prend un truc sombre ou dur ou lourd et l'objectif c'est de le transformer en quelque chose de positif qui finira par détendre tout le monde sur ce sujet-là. Et donc, quand on a une dame, on sent, en vrai, quand on est un petit peu sensible, on le voit directement, juste en posant les yeux sur cette dame, on sait qu'il y a quelque chose de lourd, elle est dans le brouillard. Et donc, réussir à le transformer un peu, mettre un peu de lumière là-dedans, c'est sublime.
Et c'est d'emblée spirituel.
J'avais une discussion très intéressante avec un rabbin qui s'appelle Rav Lemel, qui est un homme brillantissime, et il me parlait d'une histoire, de la Torah, d'un rabbin qui expliquait, un sage qui expliquait comment ceux qui font rire avaient leur place dans le monde futur. Et je rigolais avec lui de ça et plus sérieusement, il m'expliquait que l'humoriste est celui qui apporte la joie, c'est celui aussi qui permet de voir et qui propose la vie différemment. Et cette alternative de voir la vie différemment, elle est reçue comme une opportunité par les gens, comme un cadeau. Mais on disait avec ce rabbin hier que ça ouvre le cœur. Le rire, ça ouvre le cœur, mais vraiment, littéralement, le cœur est ouvert. Alors après, à nous d'avoir la responsabilité d'y glisser des choses qui aient du sens. Mais littéralement et physiquement d'ailleurs, on fait un métier qui provoque des réactions physiques. D'ailleurs, j'ai beaucoup souffert de ça pendant toute la période post-confinement où les spectacles reprenaient petit à petit. Le public était masqué. Et c'était très déstabilisant au début. Non pas que je les entendais pas, parce qu'un masque n'empêche pas d'entendre le rire, mais moi, j'ai fait toute une carrière en voyant des dents, des gencives parfois même, quand j'étais très drôle.
C'est la voix de Gad Elmaleh,
eh oui.
qui parle de la responsabilité qu'on a quand on est celui ou celle qui ouvre les cœurs.
Ouais.
Quand on rit, en effet, il y a un truc dans la cage thoracique.
C'est un réflexe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... On ne peut pas inventer un vrai rire et on ne peut pas retenir un vrai rire. C'est comme si on s'adressait à la partie profonde des gens. Par un chemin... intellectuel, on suscite le réflexe.
Du corps, quoi. Vraiment, ouais. Là encore, c'est très cru, c'est très pur, quoi.
C'est vraiment une décharge d'énergie qui sort. Pour moi, c'est comme un massage. Ça veut dire qu'on a appuyé un point et qu'on a réussi à libérer quelque chose. Et je pense que finalement, ce rire qui sort, s'il sort pas, c'est une tension qui reste là. Et donc, la libérer, c'est vraiment apaiser. Et les gens, quand un spectacle, ils ont beaucoup ri, les gens sortis sont fatigués et apaisés, comme un massage. Et il dit quelque chose de très vrai sur... sur finalement, on prépare le cœur des gens et on se donne l'opportunité d'y glisser des idées, des choses. Et donc, la responsabilité devient plus celle-ci. On parle, c'est l'art de parler, faire des blagues. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit ?
Une fois que c'est ouvert, quoi.
Une fois que c'est ouvert, qu'est-ce qu'on dit ? On utilise toute cette forme, toute cette technique. On peut faire rire et ne rien dire du tout, mais les gens, il va manquer quelque chose. Maintenant, une fois qu'on a toute cette technique, on l'utilise pour laisser quoi chez les gens ? Pour planter quelle graine qui fera pousser, si le terrain est fertile, quel arbre ? On en profite pourquoi ? C'est en ça où j'ai le sentiment qu'il y a des blagues qui sont sombres et des blagues qui sont lumineuses. Et c'est pas tant dans la forme, c'est plus dans le message profond que ça véhicule.
Mais vous êtes un jeune homme, Roman Fraissinet. Vous avez une trentaine d'années à peine. Vous faites ce métier-là depuis quelques années. Mmh. La dimension spirituelle, elle était là dès le départ ?
Dès le départ. En vrai...
Mais vraiment, c'est-à-dire quand vous êtes en coloc à Montréal, bah,
vrai,
à faire des blagues...
Ans. Mon problème,
ça,
il est là.
Ça, je vous crois. Et franchement, il n'est pas impossible que j'en ai 4002.
C'est bien ce que je me disais.
Mais... Quand vous êtes à Montréal, quand vous partez avec des copains, que vous écrivez du spectacle comme ça au kilomètre il y a quelques années, c'est déjà là l'idée d'une hauteur justement.
Oui. En fait, toute ma vie un peu. En vrai, j'ai pas décidé de faire ça dans ma vie. Ça s'est imposé à moi. J'ai toujours su que c'est ça que je ferais. J'avais 12
ans,
13 ans.
C'est faire rire.
Parler et faire rire.
C'est pas pareil.
Bah en fait c'est très lié que c'est un prétexte la blague. C'est une manière de passer le plus humblement possible des idées. C'est la manière de faire en sorte souvent que les gens ont l'impression que c'est eux qui ont eu l'idée. L'idée c'est pas d'avoir le crédit. J'ai pas besoin que les gens. En fait c'est la meilleure manière de faire passer un message.
Mais donc ça veut dire que quoi, vous êtes un prédicateur et que aussi bien dans 2 ou 3 ans, dans 5 ans, ça y est, vous avez fait votre histoire avec le rire, c'est plus votre idée et vous allez juste parler, dire des choses aux gens et ce sera fini de faire rire.
Je sais pas encore de quoi demain est fait, mais j'ai entamé un peu le travail de cette manière-là, ouais. Là, je suis sur une démarche de 5 ans et après je verrai ce qui se passe après. Mais oui. Et puis le truc qui est rassurant, c'est que bon là, on rentre dans quelque chose. On s'est rentré très deep, très rapidement.
Franchement, ça s'appelle au dedans.
Bah ouais, ça s'appelle
au dedans. Donc qui y va rapidement ? C'est vous ou c'est nous ? C'est vous qui allez rapidement au dedans.
Mais pour être honnête avec vous, j'ai le sentiment que ça vient pas de moi en fait. Que c'est mon rôle, c'est ma vocation. J'ai pas choisi. Quand je regarde aujourd'hui comment ma vie s'est organisée. Tout m'a amené vers là. J'ai eu les difficultés dont j'avais besoin pour être protégé plus tard. J'ai eu les facilités que certains n'ont pas eues. Enfin, tout ça a été écrit pour moi.
Vous croyez au destin, quoi.
En tout cas, je crois au mien, ouais.
D'ailleurs, vous commencez par la notoriété, qui est une forme de destin, avec lesquelles on peut décider de jouer ou de ne pas jouer. Mmh. C'est difficile de parler de ce spectacle sans en donner un peu de sel, quand même.
Allons-y.
On peut dire un petit peu.
Oui.
Ça commence par une scène où, quand le spectacle a vraiment, entre guillemets, commencé, il y a quelqu'un qui vous reconnaît dans la rue. Mmh. Et vous êtes un peu dans l'embarras avec ça, tout en disant, j'ai fait tout ce que je pouvais
pour
qu'on me reconnaisse dans la rue. Et maintenant ?
Maintenant, je dis que c'est un cadeau du ciel. Mais je dis que c'est quelque chose qu'il faut gérer. Qu'on n'est pas prêt avant que ça arrive. Donc, il n'y a pas de regret.
Non.
Je dis juste que c'est un élément à prendre en compte. Quand tu as des gens qui te reconnaissent dans la rue, bah en fait, tu dois le gérer, quoi. Ça, c'est une forme de responsabilité. Pareil, il y a des gens, ils viennent avec un tel niveau de vulnérabilité... Des fois, en 15 secondes, on peut peut-être trouver les mots justes qui ont un impact fou sur leur vie. Et
dangereux, hein.
C'est dangereux, mais en même temps, quand le fond de la démarche est toujours de l'humilité, c'est un pouvoir fou.
De toute façon, faire rire, c'est un pouvoir fou.
C'est un pouvoir fou.
Dont il ne faut pas abuser.
Dont qu'il faut axer dans une noble direction. Si c'est noble, on peut en abuser. Mais si c'est motivé par l'ego, la domination, la manipulation, la quête purement matérielle de ce monde, je pense que oui, c'est, de toute façon, tu le payes. C'est toi qui vas le payer à la fin. Mais si c'est au service, en fait, c'est, je pars du principe que c'est quelque chose qu'on m'a donné. Je pense qu'on m'a donné beaucoup, on m'a donné un outil. Maintenant, chaque don, il doit être au service des autres. On doit l'utiliser pour essayer d'avoir l'impact le plus positif possible sur les autres. Et nous, c'est en faisant ça qu'on récupérera sûrement une forme de paix.
Pour qui croit à ce genre de logique de rétribution ?
Au-delà de croire, j'arrive à un moment de ma vie où j'en ai fait l'expérience, en fait. Donc, c'est plus croire, c'est constater.
Vous parlez d'un don, Romane Fraissinet, Raymond Devos parle d'une technique. L'un ne va peut-être pas sans l'autre.
Un sketch est fait pour obtenir des rires. Il faut donc les obtenir, si vous voulez que le sketch se mette à vivre. Donc moi, si je ne le dis pas devant des gens, je ne sais pas si ça fonctionne. Ça ne fonctionne que dans la mesure où j'entends les rires là où ils doivent être mis. Alors c'est une mécanique, c'est un, pardonnez-moi le mot, mais c'est un art. Je crois que c'est un art. C'est voulu, c'est très... C'est, bon, moi, c'est à heure fixe. On me demande, monsieur Devos, dans 5 minutes, c'est à vous. Dans 5 minutes, il va falloir que je déclenche des rires. Quand on sait que les rires, on ne les déclenche pas comme ça. C'est une réaction physique profonde. Donc, si ça ne fonctionne pas, eh bien, les gens ne rient pas. Ils ne rient pas pour vous faire plaisir. Voilà ce que je veux dire. Jamais! Jamais, ou alors c'est honteux, mais non, c'est même pas possible. Bon. Alors c'est donc quelque chose de très préparé. Alors moi je sais à peu près où je vais, hein, quand je commence à faire rire, je sais où. Alors évidemment c'est que alors les dieux sont contre vous, bon, mais encore, je veux dire, les dieux ne peuvent pas être contre une mécanique.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces humoristes à faire appel aux grands spirituels et aux dieux ? C'est Raymond Devos, 1982, en octobre 1982, qui parle de des gens qui nous font pas plaisir, qui sont pas là pour nous faire plaisir en riant, et qu'il y a une mécanique et que ça marche que si ça rit, et qu'on sait si ça marche que si les gens rient. Mmh. Ça veut dire que cette mécanique-là, elle est très préparée, elle est très huilée, elle est très écrite.
Eh ben, oui. Et en même temps, il faut une forme d'abandon. Dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, les gens... Enfin, pas aujourd'hui, hein, c'est pas nouveau, mais les gens ressentent la vérité. Quelqu'un qui ment...
Mais c'est que ça, la scène ?
Non, parce qu'on peut venir et jouer quelque chose de très préparé à la seconde, etc. Enfin, moi, je pense qu'il faut un plan et il faut l'oublier. Donc, c'est contradictoire, mais il faut que l'instant prime sur le plan. Et il faut profondément mettre de la vérité dans le plan. Alors évidemment, il faut de la technique. Il y a des choses qui, au mot près, il y a peu de temps, j'ai changé un mot dans une phrase.
C'était quoi ?
Un mot.
C'était quelle
dans
phrase ?
La phrase ?
Quel sketch ?
En gros, c'est une phrase où je dis que je fais rien de ma vie. Je dis que je suis tout le temps en jogging. Okay, je suis tout le temps en jogging parce que je suis arrivé à la réflexion que les sportifs à fond, ils ont des courbatures et tout. Eux, ils sont bien là-dedans. Alors imagine-moi. Qui fait absolument rien. Je vais être au max. Et là, j'ai rajouté, je fais rien dans un équipement professionnel. Ça, les gens de ça sortent un gros rire. Avant, je disais, je ne fais rien de manière professionnelle. J'avais la moitié du rire. C'est un mot. Un mot. Donc, il y a une part de technique, des fois échanger une phrase, des fois un rythme différent, etc. Il y a quelque chose de technique. Mais je pense que ce qui amène à ça, c'est avant tout une forme de ressenti aussi. Vraiment, ce rapport à l'instant. Il y a quelque chose d'un peu impalpable, comme de la musique, quoi. En fait, que la technique pure, elle a ses limites. Il faut réussir à un moment donné à sublimer la technique par du ressenti, de la vérité, de l'abandon...
Et la technique, c'est quoi ? C'est écrire ? Écrire au cordeau, c'est passer des semaines, je sais pas quoi, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur un carnet, à écrire à la virgule près des... Comment on peut appeler ça ? C'est même pas des sketchs, c'est des moments, c'est des vagues.
Ben, en fait, à la fin, l'œuvre, elle sera orale. Donc maintenant, moi, j'écris plus sur scène qu'en dehors. J'écris une base, à la virgule près, avec des idées. J'écris un truc. Ensuite, je l'apprends pas par cœur. Il mijote dans ma tête. Je vais sur scène.
Quand ?
Je vais dans des comédie clubs et j'essaye.
Des morceaux ?
Des morceaux. Et si ça marche, tu t'en souviens. Et là-dessus, je le fais évoluer. Parce que comme à la fin, c'est une œuvre orale, vaut mieux le plus rapidement possible le créer
dans le corps,
oralement. Il sera livré de manière orale. Si on a une idée, déjà une idée, quand on la transforme en mots écrits, on la dégrade un peu. Et quand après on doit la rendre de l'écrit à l'oral, il y a des gens, on les entend. Ils font une œuvre orale, et on dit, il me lit quelque chose. Même s'il n'a pas le texte, il me lit quelque chose. Il ne me livre pas une œuvre orale. Et donc, je crois que la meilleure manière de ne pas dégrader l'idée, c'est qu'elle soit très rapidement de l'idée à l'oral. Même les meilleurs, il y en a beaucoup, j'en ai vu beaucoup à Montréal qui faisaient ça, ils n'écrivent pas. Ils ont une idée, ils la sculptent directement dans la tête. Et elle sort...
Mais est-ce qu'ils jouent autant? Est-ce qu'ils font tant de dates comme ça, au Sacré, là, en tournée, à Olympia, etc.
Ouais, parce qu'ils fixent...
Et donc ça reste vivant, quoi.
Ouais, et ils fixent l'écrit par l'oral, en fait. Ils n'ont aucune note, mais à force de l'avoir joué... Parce qu'on va beaucoup dans les comédies clubs, on peut y aller 5 fois par soir. Et donc on y va, et à force de le jouer, ça devient comme une chanson. On connaît la chanson. On sait que cette idée, elle doit être amenée comme ça, commencer comme ça. Et on n'a pas besoin du papier. Les gens ne viennent pas voir un texte. Les gens, ils viennent voir un moment. Et donc, finalement, le plus tôt on arrive à se concentrer à créer un moment, plutôt que créer un texte qu'on pense, qu'on n'a finalement pas besoin. C'est l'architecture. C'est comme si, à la fin, quand on voit une maison, on ne voit pas les fondations. L'idée, c'est ça. Le texte, c'est les fondations. Et à la fin, il faut réussir à faire une maison dont les gens se sentent bien dedans.
Qu'ils ont envie de vivre, quoi.
Voilà, c'est ça. Ou qu'ils ont envie de visiter.
Il n'y a pas très longtemps sur France Culture, il y avait un super beau documentaire consacré à la figure de Lenny Bruce. On va écouter Guillaume Aurignac parler de cet humoriste.
What's the guy doing? Donald Duck, man? No, hey, does that mic sound weird to you? No, it's a good microphone system. Okay, I get on stage. Oh, Christ. Now there's a chick gets up. You're from America, do something new. Do some of your new stuff.
What is good to do?
Do the new stuff, something new. And she's really breaking my chops with this man. And do something new. Fuck you. How's that? That's pretty new, isn't it? Oh, that's all. Okay. Next day, headline, sick women's faint at air in sex jokes and disgusting, blah, blah, blah. Okay, what?
On n'a jamais l'impression que c'est écrit, que ça a été pensé avant, que c'est vraiment sur le fil de la performance, en fait, qu'il est en train d'improviser, et avec comme s'il avait une sorte de conversation avec des gens qui étaient à table, en fait, et que c'était le convive le plus drôle, le plus intelligent, le plus brillant de la table. Et c'est comme ça qu'il travaille son stand-up. On a toujours l'impression qu'on peut le faire, en fait, que chacun peut le faire. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est un énorme travail. D'abord, faut assurer une présence sur scène qui n'est pas évidente. Et après, c'est un énorme travail de rythme, en fait. Comment utiliser les rires, comment utiliser les blancs et comment utiliser les bides aussi. Parce qu'il y a des bides, forcément, ça ne marche pas toujours. Et comment on rebondit sur un bide? Comment on n'est pas enfermé dans cette toile d'araignée du bide? Parce que le public, il a des réactions. Et il faut utiliser ces réactions-là dans le stand-up.
Je vous vois bien hocher de la tête.
Bah, ça rejoint beaucoup ce qu'on disait. Ça rejoint ce qu'on disait. Et puis lui, en plus, il vient... c'est celui qui peut-être marque le plus le lien qu'il y a entre le stand-up et le jazz. Je pense vraiment que le stand-up n'est pas héritier du théâtre. Il est héritier de la musique.
Du free jazz, quoi, de l'improvisation.
Exactement. Ça vient à la base. Je crois que les premiers stand-uppers, c'est des gens qui parlaient entre les musiciens de jazz pendant qu'ils s'accordaient les instruments ou pendant qu'ils faisaient une pause. Et donc, ils improvisaient. Et voilà. Et la musicalité dans le stand-up, elle est essentielle. Et si moi, j'ai voulu commencer au Sacré, c'est parce que c'est une salle de musique, c'est pas un théâtre. Et on est vraiment héritier du jazz et de toute cette culture de l'impro et en même temps du rythme et des variations.
Il parle de la présence physique de Lenny Bruce, qu'il faut assumer cette présence-là, qu'il faut être sur scène. Alors bien sûr, il y a le caractère endurant de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une œuvre de parole, donc il faut le faire, de parler une heure et quart, une heure vingt sans s'arrêter. Et il y a aussi, il faut être là, tout seul, devant 100, 150, 200, ou quand vous faites des plus grandes salles, beaucoup plus de gens. Vous parlez beaucoup de cette idée de l'incarnation, du corps qu'on a, de ce que c'est que d'avoir un corps comme un véhicule pour traverser le monde, du corps et des addictions, du corps, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps devant les gens, Roman Frayssinet? D'avoir cette drôle de chose, et je parle même pas de la télévision qui est encore une autre chose.
Il faut réapprendre à... Vous voyez ce sentiment des fois quand vous marchez, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde?
Désagréable.
Et surtout, on a l'impression qu'on ne sait plus marcher. On se dit, mais attends, je marche toute ma vie, comment ça se fait que je ne sais plus marcher? Et bien, la scène, il y a un peu de ça. Et finalement, c'est quand on n'y pense pas qu'on fait les choses naturellement. Mmh. Et donc, le vrai travail derrière tout ça, ça devient un travail de détachement, de rapport à soi, en fait. D'acceptation de soi, d'acceptation de ce qu'on renvoie comme image. Le rapport qu'on a avec nous-mêmes, c'est ce que les gens vont finir par capter.
C'est aussi le sujet du spectacle, en l'occurrence.
Exactement. Exactement. Parce que c'est souvent une belle démonstration. Dire les choses, ça suffit pas. Le montrer, c'est intéressant. Montrer aux gens que on est capable d'assumer qui on est sur une scène, eh ben, je crois que ça peut donner confiance à plein de gens pour dire, mais si lui, il arrive à être en paix avec qui il est, avec ses faiblesses, avec ses défauts, peut-être que moi aussi je peux, en fait.
Et techniquement, ça passe par quoi? Là, on entendait donc Lenny Bruce et l'idée du rythme, du silence, de faire avec les bides, de faire aussi lui, avec toute la provocation, les limites qu'il poussait dans les différents sketchs. Mais quand vous parlez d'un relâchement, et c'est aussi le mot que j'ai utilisé pour parler du spectacle, ça veut dire que quoi? Vous faites attention à votre souffle? Vous faites attention à
justement,
vos épaules?
Je fais attention à rien. je ne calcule... Je fais la paix. Si je le calcule, j'essaie d'être en maîtrise, ça veut dire qu'il y a une bonne manière d'être. Non, la bonne manière d'être, c'est d'être moi, entier. Voilà, d'assumer tout, d'accepter qui je suis. Juste ce sentiment-là fera découler le reste. Si je sais comment marcher.
Et donc, ça veut dire que si les gens rient, potentiellement, les gens rient de quoi, alors? De ce que vous révélez de vous-même? De ce que vous révélez de vous-même, ce qui révèle ce que nous sommes?
Ils rient de... ouais. Il y a plusieurs niveaux à chaque fois. Les gens rient pas pour la même chose, ou pas le même niveau de compréhension, pas les mêmes sensibilités, mais souvent, ils rient de... ouais, d'une forme de miroir. D'eux-mêmes, d'une situation... Mais souvent, c'est un schéma de compréhension.
Croyant rire de vous?
Ouais.
Croyant rire de vous, ils se rient d'eux-mêmes?
Ça dépend. Il y a des fois, ils rient de moi, et ça leur fait du bien parce qu'ils se reconnaissent. Et donc, finalement, ils rient d'eux-mêmes et ils soulagent leur rapport à eux-mêmes. Des fois, on rit ensemble de quelque chose d'autre. Des fois, ils rient d'avoir... Souvent, le schéma du rire, c'est un schéma de compréhension. Mmh. On rit quand on a compris quelque chose.
Ouais, c'est un éclat.
Mmh. Exactement. Et donc, on a compris. Ils ont compris où je voulais en venir. Ils ont compris la mécanique. Ils ont compris ce que je voulais dire. Ça peut être sur eux, ça peut être sur moi, ça peut être sur nous, ça peut être sur les autres, ça peut être sur un clavier, une bouteille. Mais ils ont compris ce que je voulais. Et cette compréhension-là, pour une raison que j'ignore...
s'exprime comme ça.
S'exprime par un éclair de joie, bref et intense. Ça, je sais pas pourquoi.
Il y a un chat sur l'affiche, et il y a un chat à la fin, dans un moment vraiment jubilatoire. Il y a un chat dans la musique. Vous écoutez France Culture, Par les temps qui courent, ce soir avec...
Romane Frayssinet.
J'aime bien quand mon chat danse. J'aime bien sa nonchalance pendant que le monde avance. J'aime bien quand mon chat danse. J'aime bien sa nonchalance pendant que le monde avance.
Ça ronronne quand j'ai la tête. Elle m'a connais pas ta méthode de combat. Elle a tout le temps l'air détendue. Au soleil, elle a les yeux fendus. Elle a dû me calculer deux fois. Elle a dû me calculer deux fois. Il s'agirait d'un malentendu. Sous le haut, les silhouettes sont tordues.
Est-ce que vous voulez bien me parler de ce chat? Enfin, vous pouvez boire, hein, autant que vous voulez.
J'ai le droit, ok.
Au rythme.
Il y avait toute la chanson, j'aurais pu profiter de toute la chanson
et
pour boire.
Et c'est pile au moment où on ouvre les micros.
C'est quand on ouvre les micros que je prends cette gorgée. Belle science du timing.
Exactement. On n'a parlé que de ça depuis le début,
et
quasiment.
Oui, et voilà.
On parle avec vous de ce spectacle Haut dedans, Roman Fraissinet. Il y a un chat sur l'affiche.
Oui.
Et il y a un chat à la toute fin.
Oui.
Il est très là, hein. À la toute fin, il fait vraiment monter. C'est vraiment une espèce de... Oui, de climax.
Ouais, complètement.
Pourquoi la figure du chat ?
Déjà parce que je vis avec ce chat. Donc pour moi, c'est le symbole de l'intime. Ce chat, il a pas de poils. Donc il y a l'idée encore d'être nu. Donc encore une fois, cette idée d'intime. Il vit chez moi, au-dedans. Donc il y a ce rapport-là à l'intimité. Aussi, je voulais pas mettre ma tête sur l'affiche. Parce que je voulais faire une belle affiche. C'est vrai. Je me suis dit, je vais mettre ma tête comme ça. Avec les... on va rigoler. Non, je voulais avoir le sentiment qu'on est un peu des artistes. Donc je voulais qu'il y ait une
ça
affiche qui soit...
Ça veut dire que cette idée-là
ça, oui,
je l'idée d'être des artistes. Il y a quand même plusieurs fois, vous répétez cette phrase comme un mantra, que les artistes ne marquent pas leur temps, que ce qui marque, c'est des choix, des idées,
des actes. Ouais.
Et comme s'il y avait une sorte d'incertitude sur qu'est-ce que ça vaut de faire ça, qu'est-ce que c'est que d'être là.
Non, parce qu'on a une époque qui fait des artistes des gens au-dessus de la société c'est un rôle comme il y en a plein, quoi. Donc, et d'un côté, je pense que c'est un rôle qu'il faut bien faire. C'est pour ça que je me dis, je fais une affiche. Bon, il faut que ma réflexion elle soit créative. Et donc, je dois cogiter à fond pour que quand les gens ils la voient, ils ont du plaisir, qu'ils viennent voir le spectacle ou pas, que ça leur inspire quelque chose de sympathique, qu'il y ait une réflexion derrière, que ce soit une opportunité. En fait, en tant qu'artiste, on doit pas rater une seule opportunité d'être créatif. Et en même temps, on vit dans un monde qui construit des idoles, en fait. Donc c'est aussi pour ça que je voulais pas mettre ma tête sur l'affiche. Je veux pas me starifier et faire le culte de la personnalité. Je préfère mettre mon énergie à essayer d'être créatif humblement, quoi. Et le chat, pour moi, c'était ce symbole-là. Et puis aussi parce que les félins, j'ai une passion folle pour les félins. Je trouve que c'est l'élégance pure, comment ils se déplacent, Je trouve que c'est l'une des plus belles créations de cette planète, les félins, en tout genre. Voilà. Et au début, je voulais mettre un léopard. Mais je me suis dit, si les gens, ils pensent que c'est une métaphore de moi, c'est prétentieux. Alors qu'au fond, hein.
Vous méfiez beaucoup d'être prétentieux, manifestement.
Bah, je veux pas envoyer le mauvais message. Alors que, en vrai, bon, là, on ouvre une porte particulière, mais je suis un peu persuadé que je suis un léopard. Mais je peux pas le dire comme ça, haut et fort. Et en vrai,
C'est sur la radio.
C'est trop tard. Et en vrai, si je suis humble, je suis plus un chat d'appartement.
Mais sans poil, un peu spécifique néanmoins.
Voilà, qui est un peu moche au premier regard, mais qui a sa personnalité. Quelque chose d'un peu mystique hors du temps, il a ça ce chat aussi.
Absolument, c'est un chat de temple.
C'est un chat de temple, voilà. Et je trouvais que c'était un beau symbole pour parler du haut-dedans.
Quel titre du spectacle.
Exactement.
À la fin, donc, je parlais d'un climax, qui est aussi une sorte d'énergie qui monte, comme de l'eau qui boue, cet échange avec le chat, dans un moment de conversation téléphonique avec un service de remboursement d'une compagnie aérienne. J'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, comme ça je laisse un petit suspense.
Oui.
C'est aussi la possibilité de faire entrer une sorte de tierce état qui serait l'état animal dans la conversation. C'est-à-dire qu'il y a un animal dans cette histoire et il n'y a pas qu'une conversation entre les humains. Et on a beaucoup parlé de ce que c'est que se parler ensemble. Et du coup, il y a cette espèce de présence étrange qui nous renvoie aussi à un miroir à nous. À qu'est-ce qu'on fait quand on passe des coups de fil? À qu'est-ce qu'on fait quand on se bataille pendant des heures pour obtenir un remboursement? Ce chat, il est aussi une façon de nous dire, vous êtes des humains et vraiment, vous êtes des drôles d'animaux, quoi.
Bah, complètement. Complètement, il amène un autre regard qui est loin de tout ce monde-là, en fait. C'est fou comment son existence à ce chat et à la majorité des animaux, bah il a énormément de futilité en moins, quoi. Donc le champ des possibles est moins large. Moi, je peux prendre un billet d'avion. Bon.
Lui non.
Mais il y a quelque chose de beaucoup plus Ouais, il y a tout un monde. C'est comme si on partage un même espace, mais on a des réalités qui sont extrêmement différentes, quoi. Est-ce que c'est nous qui avons pas compris notre place? Est-ce que on vient d'ailleurs? J'en sais rien, mais
Mais pas vous, parce que vous êtes un léopard.
Ouais, mais je suis un léopard en jogging qui en vrai survit pas deux secondes dans la forêt. En vrai, je fantasme d'être un léopard.
Et mais... surtout, vous n'êtes pas du tout ni costumé en léopard, ni costumé en chat, ni imitant le chat ou le léopard. Non. Ce qui change de toute une tradition de l'humour qui interprétait des personnages. On va terminer avec lui.
Sarfati, S.A.R. et Ferti. Ben oui, j'ai une formation classique, jazz, danse contemporaine, danse de caractère. Oui, je chante, je danse, je fais des comédies musicales. Comment ? Oui, 35 ans. Célibataire, oui. Oui, célibataire. Qu'est-ce que je fous avec un mec ? Pour lui laver sa culotte qui crève, c'est mieux. Oui, ah ben oui, ah ben oui, je chante, je danse, j'ai même fait la doublure de Sylvie Vartan, alors bon, faut le faire. Oui, vous savez quand elle fait dans la chanson « Et j'ai gravé dans le creux de mon dos », ils se sont tous moqués de moi parce que j'arrivais pas à faire le tour de mon dos. J'ai chanté une chanson qui est pas très connue, a cappella, et je commençais de dos. Je me lève... et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, même mal comme d'habitude. Etc, etc, etc. T'as compris le coup? Après j'explique. Bah, j'ai fait une comédie musicale aussi. Oui, j'ai chanté chez Starmania. Mais oui, c'est moi qui faisais la vendeuse de tomates. Mais... j'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir. M'étendre sur la l'asphalte. Et me laisser mourir. Grosse. Je suis trop grosse.
En 1997, c'est au Cirque d'Hiver, c'est Élie Kakou qui fait les adieux à son public. Il mourra très peu de temps après, deux ans après. Roman Fraissinet, c'est marrant, moi j'écoute ça et je ris peu. Par contre, je suis assez émue. Ouais. Je suis assez touchée. Il y a quelque chose dans son humour. On est 30 ans après. Enfin, c'est quand même un autre monde, c'est un autre temps.
Ça vieillit mal, l'humour.
Mais pourtant, il reste quelque chose. Alors, du coup, c'est quoi?
Bah, je pense que c'est quand il y a une forme de vérité, justement. Quand il y a une vraie... vraie envie de faire ça, une vraie envie de partage, quand c'est pas faux, quoi. Quand c'est une forme d'artisanat. Quand sa passion, c'est l'objet, créer un objet qu'il aime, où il met son cœur dedans, quoi. Raymond Devos a ça aussi.
Peut-être qu'on est juste ému en écoutant Élie Kakou, en le regardant sur YouTube, ça fait 1 116 000 vues, ce seul extrait du Cirque d'Hiver. En effet, parce que vous racontez, c'est-à-dire qu'on voit, il rentre sur scène, il a ses faux seins énormes, ses fausses fesses, son costume, sa perruque. Peut-être qu'on trouve ça juste émouvant et juste que cette personne-là, elle ait fait ça tant de fois, avec tant d'engagement, je sais pas.
Ben, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce genre de choses. Mais ce qui fait la différence, c'est pour moi une impression qu'on laisse dans le cœur des gens. Et ça, c'est inexplicable. Les gens, ils peuvent après raconter la blague 30 ans après, elle est plus marrante. Là, ça vieillit tellement vite, les blagues. Une blague en tant que telle, techniquement, on trouve des mécanismes, après tout le monde les fait, ils deviennent has-been, ils n'existent plus. Et au final, ce qui reste, c'est l'impression... qu'on a laissé dans le cœur des gens. Et pour moi, c'est une impression de vérité, d'amour, de générosité, de volonté de partage.
Vous avez 3 ans en 97. Et pourtant, il vous racontait souvent que vous avez appris les sketchs de Kakou par cœur.
Ouais, ouais.
Pourquoi lui?
Parce qu'avec l'intelligence d'un enfant, qui est celle qui, je pense, est purement émotionnelle...
vous aviez trouvé quelque chose
il
là-bas.
Il me faisait rire. Même si je comprenais pas la majorité des enjeux qu'il soulève, j'ai compris plus tard, j'étais un enfant, mais il me faisait rire. Je sais pas, ça me touchait. Et puis je voyais que ça faisait rire ma famille aussi. Et donc, faire ces sketchs, c'était pour moi une manière de faire rire ma famille, quoi. Mais je pense qu'il y a, ouais, il y a quelque chose qui dépasse les mots. Il y a quelque chose de profondément comique dans sa manière de parler, dans les rythmes. L'asphalte! Je sais pas comment il le fait, mais c'est marrant, un peu comme quoi. Ça. Même comment il chante mal, là, c'est très dur chanter si mal. Un air que tout le monde connaît, pousser la note au mot, enfin, c'est très dur, et je sais pas. Il y a quelque chose de profondément, universel qui me touchait, alors que je comprenais rien. Pour moi, c'est la preuve qu'il y a le fond de ce qu'il fait, et je sais pas, est pur et généreux.
Je sais plus si c'est à son propos ou à celui de Lenny Bruce, quand on écoutait les archives pour préparer l'émission, quelqu'un disait qu'il ne pouvait pas échapper à sa nature comique. Que quoi qu'il fasse, en fait, il y a des gens qui rentrent sur scène, des gens qui rentrent dans une pièce, et on ne peut pas faire autrement que les regarder avec un sourire ou un début de rire. Est-ce que vous pensez que vous l'avez, la nature comique? Ou est-ce que vous pensez que vous en jouez, genre quand vous rentrez sur le plateau de Clic?
Ouais, oui, j'en joue. Je pense que j'ai une nature comique, mais j'ai pas la plus grande nature comique. Moi, je suis un peu dans un atelier, j'affine mes pièces et tout. Je connais des gens qui ont une nature comique spontanée. Ça, c'est juste abusé. Ils mettent un pied quelque part et...
Et on rit.
Ouais, il y a déjà ce truc-là, quoi. Ils installent par des postures, une attitude, un sourire malicieux.
On voit que vous pensez à deux, trois personnes que vous ne citez pas.
Bien sûr. Mais c'est souvent les gens que je préfère avoir autour de moi. Je pense que la majorité des gens que j'ai eu dans ma vie, l'un des arguments principaux, c'était le rire, quoi.
Au-dedans, c'est le titre de ce spectacle. Il va partir en tournée un petit peu partout. On peut trouver les dates sur Internet. On ne sait pas, il y a peut-être des places secrètes à l'Olympia à gratter.
Ah, il faut se battre.
Merci Romain Frayssinet.
Merci à vous pour l'invitation.
C'était Ludovic Auger au son ce soir à la réalisation. Félix Levachin, un grand merci à toute l'équipe de Par les temps qui courent, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram. Il est animé par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture. The Macarena's, I took her far away to Lithuania. I keep a place to bait to tune your brain up. She stuffed her face in cake, no way it's safe. Just save your words, they're safe. Glocks and handles, alright. Glocks and Kukas, got guns now you took. Locking that juice up, lawyers and shooters. Are they gon' prove stuff? Right from my tooth, it's in my head stuff. I hit a rooster. I fucked it, hit the dust, I'm changing routes up. Straight up. She left in my tracksuit and my ones, I gave her new books. By the pine with the EDD, I swear you doing time. Candy, hit the gas, oh. I'm doing 100, I ain't see the dash, oh. I count my blessings, know I'm moving fast. I pull up in M's, I'm back in with M. Caught that flight in the morning, a flight to New Orleans. I'll be back in the morning. I'll be back in the morning. She steady tweaking off whatever you call it. Sweet, sweet. She flocky, flocky on whatever you call it. Yeah, I'm shutting you slow, but